Rejoignez les centaines que Jésus a mis pour un impact dans votre vie.
Bon matin, bienvenue à chacun, je vous invite à prendre place. On va débuter ensemble. On est content de vous accueillir ce matin à l'église Fusion. Est-ce que vous avez hâte de louer le Seigneur? Yes, par là aussi? Eh boy, OK. Est-ce que par là ici, vous avez hâte de louer le Seigneur? Oui, je vous donne une deuxième chance. On a un Dieu de grâce. Est-ce qu'il y en a ici qui ont hâte de louer le Seigneur? Yes, excellent. Je suis content de vous voir. Merci d'être là. On va avoir un temps béni ce matin. Dans quelques instants, on va avoir un temps de louange. Et après la vidéo des annonces, on a un invité spécial que je vais vous présenter plus tard. Mais je veux quand même qu'on prenne le temps d'accueillir nos invités tout de suite là, des États-Unis, les pasteurs Stéphane Côté, son épouse Chantal, qui vient de la Géorgie. Bienvenue. Très content que vous soyez ici dans la maison Fusion. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Donc, je vous en reparle tantôt et c'est lui qui va nous apporter la prédication. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Si vous êtes là pour la première fois en ligne, n'hésitez pas à nous écrire sur info@commercialeglisefusion.com si vous avez des questions, vous voulez avancer dans votre cheminement spirituel. On est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Et d'ailleurs, ici sur place, est-ce qu'il y en a qui sont là dans la maison ici, dans l'église Fusion, pour la première fois? On aimerait juste lever votre main rapidement. On aimerait juste vous accueillir. Une dame ici à l'avant. Est-ce qu'il y en a d'autres? On aimerait juste vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue. Des gens qui sont là également. Bienvenue à l'église Fusion. On est vraiment contents. Des gens qui sont à l'arrière aussi. Donc, n'hésitez pas à passer à l'espace bienvenue. On a un carton contact qu'on va vous remettre également. Si vous voulez le remettre à l'espace bienvenue, il y a un cadeau pour vous. Et puis, on veut juste apprendre à mieux vous connaître, mieux vous servir. Bienvenue encore une fois à l'Église Fusion. On est très contents. Petite annonce rapide, nous entrons là dans avec le froid qui arrive dans la saison des grippes, tout ça. Si vous avez symptômes de grippe, de gastro, s'il vous plaît, restez à la maison, suivez-nous en ligne. On a un beau ministère en ligne de l'Église Fusion à chaque semaine en direct, donc c'est merveilleux. J'ai une bonne nouvelle pour le projet de résidence. Il y a 15 bénévoles qui ont donné leur nom jusqu'à présent pour aller visiter la résidence Saint-Antoine et d'autres résidences. Donc, merci pour votre implication. J'attends les nouvelles, les informations de la résidence, à savoir à partir de quelle semaine on va pouvoir aller faire la célébration de la parole, un temps de louange, message, prière et du social avec ces gens-là. Donc, on va avoir des équipes, là. On a au moins 5 équipes qu'on va pouvoir faire. Et même, je crois que le Seigneur va ouvrir d'autres portes dans d'autres résidences en temps et lieu. Mais gardez ça en prière, s'il vous plaît. Et une autre annonce que je voulais faire, quand même importante, puis j'aimerais ça qu'on prie pour la famille Campbell. Notre frère Daniel est parti rejoindre le Seigneur vendredi après-midi. La famille était dans la paix de voir tout le contexte, comment notre frère finalement est parti rejoindre son Seigneur, son Sauveur. Et moi, dans les dernières semaines, c'est un frère, Daniel, qui m'a énormément inspiré jusqu'à son dernier souffle. Tout ce qui lui importait, c'était voir l'action de l'Esprit dans sa vie, dans l'Église. Il s'inquiétait de savoir comment vous alliez, comment l'Église Fusion allait, est-ce qu'il y avait des nouvelles âmes de sauver, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et moi, je me dis, Seigneur, je veux être comme cet homme jusqu'à mon dernier souffle, penser au royaume de Dieu et vraiment chercher sa face. Et j'ai eu des temps de prière et d'échange avec lui dans les dernières semaines. C'était vraiment touchant et bénissant. Je vais offrir mes sympathies à toute la famille Campbell, Kevin, Pierrette, Arlette, Isabelle, toute la famille. Gardons-les en prière et lorsqu'on aura les informations pour les funérailles, on va vous les communiquer prochainement. Et J'avais déjà mon titre de message pour la semaine prochaine. Et lorsque c'est arrivé vendredi, j'ai dit vraiment, il faut que j'adresse ça. Ça fait plusieurs mois avec tout ce qui s'est passé. Mon titre de message de la semaine prochaine, c'est « Qui voulez-vous être et que voulez-vous faire avant la fin de votre vie? » Et on ne sait jamais quand nous allons aller rejoindre le Seigneur. Et puis, il faut être prêt. Et le Seigneur, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et il veut qu'on soit épanoui, qu'on rentre pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous. Et il y a plein de gens qui sont partis rapidement, mais qui ont été des exemples, des inspirations pour moi, comme pour chacun d'entre nous. Et je vais adresser ça la semaine prochaine. Comme, qui voulez-vous être et que voulez-vous faire avant la fin de votre vie? C'est maintenant qu'on en parle. C'est maintenant qu'il faut y penser et se préparer pour vivre, même si on meurt à 120 ans ou 132 ou à 105, 109, comme mon arrière-grand-mère l'année passée. Donc, vraiment, Dieu a de belles choses pour nous. Je vous invite à vous lever. On va remettre cette réunion dans les mains du Seigneur et se tourner vers le Dieu qui donne la vie éternelle, qui donne l'espérance et qui veut agir parmi nous ce matin. Peu importe votre besoin, peu importe votre réalité, le Seigneur est au courant et il trouve ça important. Il vous considère, il veut agir dans votre vie. Seigneur, merci pour ta présence. Nous t'invitons, nous demandons qu'il y ait une action de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour. Et on veut commencer avec la louange, l'action de grâce, te dire merci pour qui tu es, te rendre toute la gloire, car tu es un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu tellement bon, et on veut le reconnaître, le dire, le chanter, te louer, te rendre toute la gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Louons Dieu ensemble ce matin.
Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais tous les chants ont été inspirés et choisis pour déclarer que notre Dieu brise les chaînes, que notre Dieu est notre espérance, qu'il est notre sauveur, qu'il déplace les montagnes. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui croient que notre Dieu est un Dieu de miracles? Il y a un Dieu qui déplace des montagnes. Il y a un Dieu qui fait trembler les ténèbres. Oh merde, chantons cela ensemble.
Ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir. Viens remplir ma vie, je donne.
choisi pour que le monde voie.
Sur moi n'a pas de
Tu es notre refuge, Seigneur.
La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus.
Êtes-vous prêts?
Pour briser les chaînes, briser les chaînes.
Beaucoup d'entre nous passent au travers de périodes difficiles. Puis ce matin, on va chanter ensemble que Jésus fait trembler les ténèbres. On vient déjà de déclarer qu'il brise les chaînes. Quelles sont les ténèbres dans ta vie? Qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse intercéder les uns pour les autres et déclarer que la puissance de Jésus fait trembler les ténèbres. Amen. Amen. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus.
Qu'est-ce que la sanctification? Premièrement, la sanctification est l'acte de Dieu par lequel il met le pécheur converti à part pour lui-même. Deuxièmement, la sanctification est aussi l'opération du Saint-Esprit par laquelle il purifie continuellement le croyant. Troisièmement, la sanctification est l'opération par laquelle le croyant se purifie lui-même de toute souillure de la chair et de l'esprit.
Continuons de soutenir ensemble l'œuvre de Dieu par nos offrandes. Pour savoir comment donner, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse églisefusion.com/donner ou rendez-vous à l'entrée au point de paiement Interac. Merci pour votre générosité. Pour vous, mesdames, Gina et le comité fusionnel vous convient à la 3e session du groupe Première Ligne qui se tiendra ce samedi 13 novembre à 9h au 223. Venez explorer la suite du sermon sur la montagne et plus particulièrement ce que Jésus a à dire sur les influenceurs. Et ce n'est pas la définition que donne Instagram. C'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous désirez rajouter du sel et de la lumière à votre vie chrétienne. Notez à vos agendas, c'est le samedi 13 novembre, dès 9h, bienvenue à toutes les femmes. L'évangélisation se poursuit avec l'évangéliste Claude Tremblay du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre. Il y a deux semaines, son équipe composée d'une vingtaine de bénévoles en alternance ont visité plus de 4000 domiciles en 4 jours, apportant la bonne nouvelle en Jésus-Christ à des personnes souffrantes, malheureuses, voire même en fin de vie. Nous vous invitons à donner un coup de main en participant à cette œuvre divine. Joignez-vous à eux du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre à 8h30 chaque jour au sous-sol de l'église Le Flambeau. Des vidéos de formation sont disponibles, n'hésitez pas à nous les demander à l'adresse courriel secrétaire@églisefusion.com.
Allô, je m'appelle Ling, Bo Ling. Et ça, bowling. Les hommes de l'église Fusion sont invités à jouer au bowling au Kiyorama le samedi 27 novembre de 10h à midi. Une partie coûte 5,75 et les souliers sont 4$. Nous allons jouer deux parties, donc en tout ça va coûter 15,50. Masque obligatoire en tout temps, passeport vaccinal sera demandé et une preuve d'identité. Les inscriptions se feront à l'arrière de la salle le 7 et le 14 novembre 2021 et les lundis de prière sur sport. HP.
Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, nous vous encourageons à partager et à aimer ce direct dès maintenant afin que la parole de Dieu touche le plus grand nombre. Pour connaître toute l'actualité de l'Église Fusion, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou rendez-vous sur notre site internet à l'adresse églisefusion.com. Nous vous souhaitons un dimanche rempli de bénédictions.
Amen, amen. S'il y en a qui veulent procurer de la joie, comme vous l'avez vu dans la vidéo aux enfants, il reste quelques boîtes aux sorties. On m'a dit tantôt qu'il n'y a pas toujours des dépliants dans les boîtes, mais sur la boîte, il y a l'adresse boursedusamaritain.ca pour avoir toutes les informations de comment remplir une boîte et créer une explosion de joie dans les enfants un peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à vous procurer une boîte. Si vous n'avez pas Internet, allez voir notre secrétaire du mardi au jeudi à l'église. Elle va vous aider dans les détails. Pour remplir et envoyer cette boîte-là, il faut laisser un 10$ aussi en plus des cadeaux pour le shipping, pour le transport. On a le privilège d'avoir le pasteur Stéphane Côté avec nous ce matin, qui vient des États-Unis. Plusieurs le connaissent pendant plusieurs années. Il a été pasteur des enfants à l'église Nouvelle Vie. Il était aussi directeur de camps, les camps Smiley. Il y a de mes filles et d'autres enfants de la jeunesse qui ont été bénis par Safari, qu'il s'appelait, donc dans ces camps-là, des camps chrétiens vraiment intenses, bénissants. Depuis quelques années, il est aux États-Unis, il est maintenant consultant, et puis vous avez son site stéphanecôté.org, Stéphane sans le E, parce qu'en anglais, ça se dit mieux comme ça, et puis donc il est un homme de Dieu qui aide les gens à marcher, à avancer, à aller plus loin dans leur vie, à aller vers un avenir plus brillant. Et je me rappelle en 2006, lorsque nous étions ensemble à Jérusalem, en Israël, une longue marche qu'on a faite à Jérusalem, où est-ce que moi je lui parlais de mon projet d'aller implanter une église. J'avais 24 ans à ce moment-là, et lui m'a conseillé, m'a encouragé vraiment. Déjà, il avait un ministère d'impact dans la vie de plusieurs centaines de personnes, mais il a aussi eu un impact sur ma vie, parce que je devais prendre une décision au retour d'Israël pour voir est-ce que je me lance dans le ministère. Tout ça était nouveau pour moi, devenir pasteur. Et puis, donc, cet homme de Dieu, ce frère, m'a déjà conseillé, encouragé à cette époque-là. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec des multitudes de personnes. Est-ce qu'on peut accueillir cet homme de Dieu-là à l'Église Fusion, Stéphane Côté?
Hey, merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai allumé, hein, c'est bon. Oui, je me souviens parce que c'est moi qui avais payé pour ton dîner de falafel cette journée-là. C'est important, ça. C'est vraiment important de savoir ça. Non, je me souviens très bien de cette conversation-là parce qu'on avait commencé cette conversation-là à Prague, qui était notre escale. Oui, là, pardonnez-moi si des fois je cherche mes mots en français un peu. Ça fait quand même quelques années qu'on vit juste en anglais. Et ma femme et moi, quand on se parle à la maison, c'est en français, mais c'est aussi en anglais. C'est franglais. Puis des fois, on sait même pas quelle langue on parle. Alors déjà, il faut juste penser un petit peu. Mais pendant cette escale-là, à Prague, on avait marché sur un pont, puis on parlait, puis je me souviens très bien de t'avoir dit, mais à un moment donné, tu vas être prêt à traverser ce pont-là. Et puis, jeu de mots très, très plate, mais... T'as pas très, très impacté, ça, parce que tu t'en souviens pas de ce bout-là. Mais c'est pas grave. Mais moi, je me souviens de ces moments-là avec toi, David. Il y avait quelque chose chez toi qui m'avait attiré chez toi aussi. Parce que je voyais cette passion-là que tu avais pour Dieu, que tu avais de servir Dieu. C'était très flou à ce moment-là. Il y avait la crainte de bon, « je fais quoi? » Là, c'est pas évident, je suis pas sûr de ma décision. Mais on n'est jamais sûr de nos décisions, n'est-ce pas? Je dis, les décisions, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des options devant nous et c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. J'ai l'occasion d'aider beaucoup de pasteurs, d'aspirants pasteurs qui se demandent comment on fait pour commencer le ministère. On a eu l'occasion d'aider aussi des gens, des femmes d'affaires qui travaillent, qui sont chrétiens puis qui veulent aider leur business à aller un peu mieux, mais pas pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poche, mais pour qu'ils soient un témoignage dans leur milieu d'affaires. Et c'est extraordinaire, Dieu ouvre des portes, c'est génial. Ni ma femme, ni moi, on s'attendait à ce que ça arrive. On aide les gens aussi de façon générale sur les aider à... En anglais, on dit « a brighter future », un avenir plus brillant. Une bonne traduction, quand même, pas trop mal. Et si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur notre site web. Stéphane, effectivement, il n'y a pas de « e ». Parce que les Anglais, là, les Américains, lorsqu'ils voient mon nom avec un « e », ils viennent me voir, ils viennent me serrer la main, puis ils disent « Stephanie ». Et là, je sais qu'on est en 2021, puis il y a plein de... C'est pas la question, mais quand même, pauvre Stéphanie, quand même, s'il vous plaît. Alors, on a enlevé le « e » du nom de tous les documents qui ne sont pas légaux. Mon passeport dit encore « Stéphane avec un E ». Fait que quand j'arrive à l'aéroport, j'entends « Stéphanie ». C'est comme... ouais, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez aller sur Stéphane sans E, côté.org. Si vous me cherchez sur Instagram aussi, il y a Stéphane sans E encore, stéphanecôté.coach. Et sur Facebook, ben, cherchez Stéphane. Pas de « e » encore. Parce que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on va commencer à annoncer des cours qu'on va faire en ligne. Puis aussi des petits groupes online. C'est quelque chose qu'on pouvait pas faire il y a quelques années. Parce qu'on pensait jamais à faire ça. Et maintenant, on peut joindre non seulement des gens qui sont directement autour de nous, mais d'avoir comme tous les gens qui nous regardent en ligne présentement. La centaine de personnes qui sont là. On a l'occasion d'élargir nos horizons un peu. Alors, vendredi soir, on était ici. J'ai eu un bon temps avec les ados. C'était tellement le fun. Vous savez, quand on vieillit un petit peu, moi, j'étais encore jeune, là, 32 ans. Pas très fort en maths, alors, inquiétez-vous pas trop. Et j'étais là et je voyais des visages qui avaient beaucoup changé, mais, tu sais, les yeux, ça change pas tant que ça. Le reste change. Ils ont grandi. Il y avait une dizaine de jeunes qui ont fait des camps d'été avec nous à travers les années, et je me disais, waouh, imagine comment l'Église fait quelque chose d'extraordinaire avec ces jeunes-là. Parce que je me souviens très bien que j'avais mentionné à un moment donné une statistique qui disait que, je parlais des jeunes dans un camp d'enfants, statistiquement parlant, seulement un tiers d'entre vous allait continuer à suivre le Seigneur lorsque vous serez adulte. Et puis là, il y en avait une dizaine juste ici. Alors, félicitations à tous ceux qui travaillent avec les enfants, qui investissent du temps et de l'énergie. Ah oui, non, oh ouais, quand même. Quand même. C'est pas juste l'Église de demain, mais il n'y en a pas d'Église demain si on n'investit pas aujourd'hui. C'est ce qui arrive, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et d'en voir une dizaine vendredi, ça réjouit mon cœur. Bon temps, on a eu l'occasion de prier. La jeunesse était, dans les dernières années, une des jeunesses que j'ai trouvées le plus participative. C'était le fun, il y avait des « yeah, yeah, amen, hey, c'est bon ça ». Là, je suis en train de vous dire que j'aime ça quand ils font ça aussi. OK? Vous pouvez le dire en ligne aussi, liker, mettez le emoji que vous voulez, ça va être super, OK? Mais super temps, merci Roxane de m'avoir invité. On avait prévu ce moment-ci il y a 2 ans, mais la province n'était pas tout à fait prête, donc on a décidé de développer un virus qui s'appelle le COVID, puis on a remis ça plus tard. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, on puisse le faire. Merci beaucoup pour l'occasion. À chaque fois que je vais prêcher quelque part, il y a toujours un moment de... Ouh, je me tiens à l'endroit où il y a des gens qui prêchent l'Évangile et qui aident un peuple à grandir et avancer à chaque semaine, semaine après semaine. Et moi, j'arrive, puis là, le monde va être là parce que c'est l'invité qui arrive. « Ah, c'était super bon, son message! » Oui, mais Pasteur David l'a juste prêché 10 fois dans les dernières années, mais il n'y a pas personne qui lui a dit que c'était super bon. Alors, allez encourager votre pasteur régulièrement, s'il vous plaît. C'est lui qui vous nourrit à chaque semaine. C'est lui qui s'assure que l'Église avance avec son équipe. Mais assurez-vous de lui dire un grand merci de façon régulière. Et oubliez pas la madame non plus, madame Noémie, oubliez-la pas. Elle aussi, elle porte le poids du ministère avec son mari. Allez les encourager par vos mots. Les accolades, pas encore, hein? On n'est pas rendu là encore. Fist pump, ça va être super. Mais merci beaucoup de me donner cette occasion-là, puis je considère que c'est un moment privilégié. Ouais, pour votre pasteur, OK? Juste pour votre pasteur, ce bout-là. On va parler aujourd'hui de deux histoires particulières des évangiles. Je les aime beaucoup parce que, à ce moment-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Je trouve ça intéressant parce que là, Jésus avait une destination qui était prévue, là. Il avait déjà décidé où on s'en allait. Puis vous savez tous que la destination, c'est, bon, quand on va en vacances, la destination devient privilégiée. Ah, je m'en vais quelque part. Mais on oublie souvent que la destination, c'est juste là qu'on arrête. Mais il y a tout l'entre-deux, là. La destination n'est jamais déterminée par nos intentions, vous savez ça. J'arrête pas souvent au gym, mais j'ai l'intention d'arrêter au gym. J'ai l'intention d'arrêter au restaurant avant d'aller au gym. Puis de changer de voie pour ne pas aller au gym. Alors, notre destination n'est jamais déterminée par nos intentions. Notre destination est toujours déterminée par nos actions et la direction que l'on prend. Si je vais aller là et que je décide de marcher comme ça, ça ne veut pas dire que je ne me rendrai pas. Ça veut juste dire que ça va juste être un peu plus long. Alors, Jésus mentionne à ses disciples, on va aller de l'autre côté. Il détermine la destination, mais ce qu'il ne leur dit pas, c'est le processus qu'on va passer au travers entre le ici et là-bas. Et c'est pour ça qu'il ne donne pas la destination finale de l'autre côté du lac. Il fait juste leur dire, on va aller de l'autre côté. Alors, ce matin, ce qu'on va essayer de regarder, c'est deux histoires qui sont fascinantes pour moi. Et pour vous, je l'espère aussi. Et on va lire ces textes-là. Vous avez votre Bible dans Matthieu, chapitre 8, les versets 18. Et ensuite de ça, on va lire de 23 à 26. J'aime beaucoup la Bible. J'espère que vous êtes de ceux-là. Je sais que Pasteur David aime beaucoup les Écritures. Moi aussi, je ne vous partagerai pas ce que je pense que les Écritures disent. On va regarder ce qu'elles disent. Et après ça, on va soumettre notre volonté et nos actions à ce que les Écritures nous disent. Parce que c'est ça qui va déterminer notre destination ensuite de ça. Alors, voici qu'est-ce qui arrive. Alors, Matthieu, le chapitre 8, le verset 18, et ensuite de ça, les versets 23 à 26. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, parce que partout où Jésus allait, excusez-moi, j'aime ça couper ma lecture de verset, juste pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer là. Partout où Jésus allait, tout le monde voulait être là. Tout le monde voulait rencontrer Jésus. Il y avait quelque chose à aller voir et aller l'entendre. Alors, les gens sont là, il y a une foule nombreuse. Déjà, une foule, c'est quelque chose, une foule nombreuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une foule nombreuse, comme monter en haut, ça, je ne sais pas. Mais bon, et voici ce qu'il dit. Il ordonna à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Il ordonne à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. C'est pas, hey, les gars, ça serait le fun qu'on y aille, OK? Hey, tu vas en passer, les gars. Non, non, non. C'est le Seigneur lui-même qui ordonne à ses disciples de passer de l'autre côté. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête. Pas une tempête, pas une grande tempête, une si grande tempête. Ça, là, c'est comme, tu sais, la tempête du siècle qu'on annonce trois semaines d'avance parce que on sait qu'elle arrive de l'autre côté de l'océan, puis elle s'en vient, là. Une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Bon. Je sais pas comment est-ce qu'on peut recouvrir une barque avec des vagues. Mais d'autres traductions vont dire qu'elle était submergée. Que les flots passaient par-dessus. Et là, on parle des gars qui sont habitués d'aller sur ce lac-là, connaissent le lac, il n'y a aucun problème. Ils en ont vu des tempêtes, ils en ont mangé pour déjeuner quand ils n'avaient pas faim, il n'y a pas de problème. Mais ce coup-là, la barque, et ça va vraiment pas bien, mais ma préférée dans tout ça, moi, là, c'est celle-là. Et Jésus, lui, là, est en arrière, au milieu, en avant, on ne sait pas, il dormait. OK, vous connaissez ce gars-là ou cette fille-là dans une voiture, même sur les belles rues du Québec. Il va dormir quand même dans la voiture, hein? Vous les connaissez, ces gens-là. Mais Jésus, en plein milieu d'une tempête, dort, lui. Pas trop stressé avec la situation. Prend ça relax et il dort. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir l'impression que Jésus dort. Là, aucune insulte à l'Évangile. C'est pas ça que j'essaie de faire. Mais des fois, j'ai eu l'impression régulièrement dans ma vie où Jésus dormait, où il m'entendait pas quand je priais. Alors, tu pries et tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Ça serait bon que tu fasses quelque chose, là. Ça m'est déjà arrivé de dire, Jésus, est-ce que tu dors? Je le dis pas comme ça, parce que c'est en privé entre lui et moi. Ça sonne beaucoup plus intense que ça. Fait que dans ce temps-là, ce que je fais, et ma femme vous le dira, je sors dehors parce que j'ai l'impression que ma prière frappe le plafond. Je sais, c'est ici, là. Je sais. J'ai très bien compris. Il est partout, je le sais, mais c'est mon impression, c'est que il veut tellement pas m'entendre que ma prière frappe le plafond et elle me revient à moi. Et je suis frustré parce qu'il ne répond pas à mes besoins. Je vais dehors, je regarde le ciel, puis je crie un peu. Come on, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a cette tempête-là qui arrive. Les disciples commencent à paniquer un peu, mais lui, Jésus, très calme. Il savait très bien que c'était pas la fin de sa vie à ce moment-là. Il était bien au courant. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en lui disant, là, je vais essayer de lire comment ça aurait pu se passer, ce bout-là, OK? Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. Non, hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Honnêtement, là, en ligne, vous pouvez crier comme vous voulez, là, chez vous, là, c'est correct. Mais imaginez, là, les vagues passent par-dessus le bateau. C'est pas un kayak où l'eau va dessus puis elle tombe sur le côté, là. Non, non, non. L'eau est en train de rentrer dans le bateau. Puis tout le monde sait, je veux dire, sous le bateau de l'eau, mais pas dedans le bateau de l'eau. Ça fonctionne pas. Alors, on sait très bien que c'est pas « Seigneur, sauve-nous », puis je suis pas sûr qu'ils auraient dit avec un bel accent français, « Oh Seigneur, Dieu de l'univers, sauve-nous, nous allons mourir. » Il y avait un instant de panique, là. Je lirai pas tellement comme ils peuvent l'avoir dit. Et Jésus se réveille et dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? » Je me souviens d'avoir lu ce texte-là à plusieurs reprises, puis j'avais l'impression que Jésus reprochait aux disciples d'avoir paniqué un peu. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on va regarder un autre texte dans quelques minutes. Et ce qu'il est en train de faire à ses disciples, c'est de leur rappeler qu'ils sont pas arrivés à destination encore. Parce qu'il leur a dit, on s'en va de l'autre côté du lac. Lui savait où il s'en allait. Les disciples avaient une idée générale de la destination. Mais pendant le processus, c'était pas si évident que ça pour eux. De là, leur grande panique. Pendant que Jésus dormait, eux ont regardé leur situation, et là, il y a eu la panique. Je sais pas si ça vous arrive, vous, d'avoir de ces situations-là, où la panique vient s'installer, l'anxiété commence à s'élever, je sais pas si je vais avoir encore ma job la semaine prochaine, il faut que je paye mes impôts de la PCU, je sais pas. Mais des moments difficiles, les statistiques nous disent que présentement, les taux d'anxiété sont à la hausse un peu partout en Occident. Le nombre de gens qui doivent prendre un peu de médication parce que c'est juste trop compliqué, complexe. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. J'ai perdu des êtres chers suite à la maladie. En état de panique, en état d'anxiété, l'angoisse dans le plafond, et là, tout d'un coup, c'est comme, « Seigneur! » « Vas-tu faire quelque chose, s'il vous plaît? On va mourir! Je suis plus capable! » Déjà arrivé? OK. OK, je vais juste savoir si c'est juste moi que c'était juste à moi que c'est arrivé. Je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que Jésus leur dit, non, non, ça va être correct, les gars. Écoutez bien ce qu'il leur dit. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Il leur répète, hein? On n'est pas arrivé à destination encore, les gars. On n'est pas passé au travers encore. Pourquoi vous avez si peur que ça? Vraiment? Alors il se leva, menaçant les vents du lac. Il y a un grand calme. Ça ne s'est pas juste calmé. Il y a eu un grand calme. Celui qui écrit ça, Matthieu, n'était pas dans le bateau à ce moment-là. Possiblement, c'est pas définitif, mais il connaît l'histoire. Puis il sait qu'après ça, un coup, Jésus dit, « Hé, wow, wow, les vagues, là, relax, calmez-vous. » Après ça, non seulement les gens ont été calmes, les disciples se sont calmés, mais il y a eu un grand calme. Il y a eu comme un moment où Dieu, au-delà de juste des bons mots qu'on connaissait, il y a eu quelque part cet apaisement complet de juste être bien. Ouh, il a pris soin de nous. On ne mourra pas finalement. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à destination encore. Eux voulaient arriver à destination, mais la destination pour Jésus n'était pas si importante que ça. C'est le chemin sur lequel il les amenait. Un chemin. Le processus dans lequel il les amenait. Et ces hommes furent étonnés. C'est ses disciples, hein? On ne parle pas des gens qui ne connaissaient pas Jésus, là. Ça fait déjà un an et demi qu'ils marchent avec lui. Et ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Cette histoire-là est là pour nous rappeler différentes affaires. On sait déjà, je ne veux pas parler des tempêtes dans nos vies. Je veux dire, on a entendu parler amplement dans les deux dernières années. Et c'est pas fini. Right? Je disais aux ados vendredi, mais que c'est passager, ça. Ça ne durera pas toujours. On va passer au travers à un moment donné. On va sortir de l'autre côté, comme Winston Churchill le disait si bien. Si vous marchez à travers l'enfer, continuez à marcher. À un moment donné, tu vas sortir de l'autre côté. Ça va être correct. Le gars qui a sorti l'Angleterre de la guerre contre les Allemands. Mais Jésus savait très bien que le processus, le chemin sur lequel il les emmenait vers cette destination-là, c'était pas pour leur prouver et les faire paniquer, là. Mais c'est Jésus qui leur a ordonné d'aller là. Jésus voulait absolument que ses disciples comprennent quelque chose dans ce moment de tempête-là. Ça, c'est la portion où chacun d'entre nous, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on devrait comprendre de passer à travers des moments difficiles comme on passe au travers? Qu'est-ce que je devrais comprendre de cette anxiété-là que je vis? Qu'est-ce que je devrais comprendre des deuils que j'ai faits et tout ça? Qu'est-ce que je devrais comprendre? Jésus fait juste il nous donne la réponse. Homme de peu de foi, on n'est pas rendu encore. Pas qu'on manque de foi, puis je ne suis pas sûr. Mais Jésus, à ce moment-là, a simplement prouvé deux choses à ses disciples. Un, c'est lui le boss. Si on peut se souvenir de ça, on a une bonne leçon d'apprise. Comme on a chanté ce matin, il n'y a pas une tempête qu'il ne peut pas contrôler dans nos vies. Il n'y a pas une crainte qu'il ne peut pas évacuer de nos vies. Il n'y a pas un moment difficile où Jésus dit, « C'est quoi? » On peut avoir l'impression qu'il dort pendant ce moment-là. Ça, c'est possible. Mais il prouve que c'est encore lui le boss. C'est lui le dirigeant. C'est lui qui a prouvé qu'il avait la maîtrise des éléments de la nature. Quelques semaines auparavant, il avait multiplié des pains. Il a prouvé qu'il est capable de pourvoir aux besoins aussi. Il a prouvé que même la nature va lui obéir s'il dit quelque chose. Parce qu'un seul mot de lui est suffisant. J'aurais pensé d'en avoir un deuxième sur celle-là. Un seul mot de Jésus, c'est suffisant. Parce que si lui parle, on va être OK. Ça va bien aller. Il n'y en aura pas de problème, même si les flots passent par-dessus. Même si on va mourir! Ça va bien aller. Parce qu'on n'est pas rendu à destination encore. Il prouve même que c'est lui qui dirige le monde spirituel. Il a calmé les peurs de ses disciples dans les chapitres qui précèdent. Et à ce moment-là, même les disciples, c'est écrit là, ils étaient très étonnés. Je sais pas pourquoi, mais nous, on connaît la fin de l'histoire, eux autres ne la connaissent pas encore. Ils sont très étonnés. C'est comme, wow! Il peut faire ce qu'il veut. Et il y a des moments comme ça dans notre vie où cette première leçon-là, on doit l'apprendre, c'est celle où même au milieu de nos tempêtes, Jésus, ça arrive. On a juste à crier à lui, là. Il dort pas. C'est juste, il veut nous rappeler qu'on a vraiment besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Il contrôle chacun des éléments de notre vie. Pas quelques-uns. Chacun des éléments de nos vies. Et si tu te sens submergé ce matin, si tu as l'impression que je ne suis plus capable, c'est trop, arrête! Seigneur, pourquoi? J'imagine qu'il a dû avoir un disciple, probablement Thomas, qui a posé la question. Je ne sais pas. Mais Jésus voulait juste leur prouver à ce moment-là que c'était lui le maître des éléments, de tous les éléments de la vie. Ça aurait dû être une bonne leçon à prendre, ça aurait été génial, ça aurait été super. Mais Jésus a décidé d'une autre fois d'aller de l'autre côté du lac. Une deuxième fois. Moi je ne sais pas, je suis un des disciples, il me demande encore d'aller de l'autre côté du lac. Je me dis, on peut y aller à la marche? Je me dis, c'est pas si loin que ça, c'est 20 km, 30 km. On va marcher, on va être correct. Ça va bien aller, Jésus. La dernière fois, tu te souviens, tu sais, ça aurait peut-être été moi, Thomas, je ne sais pas. Mais là, Jésus encore demande à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac. Et lisons ça. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 14. Si la première leçon, la première leçon qu'il devait apprendre avant d'arriver à destination, c'était que Jésus contrôle tous les éléments pour ne pas s'inquiéter, il y avait une deuxième leçon qu'il devait apprendre. Aussitôt après, il vient de faire des miracles, les gens, les foules sont encore là. OK? Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque. C'est la barque, je ne sais pas si c'est la même ou non, on n'a aucune idée, OK? Mais il les fait monter dans la barque pour qu'ils passent avant lui. Il n'embarque pas dans le bateau ce coup-là. C'est une bonne nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle? Je pense que le jury est encore en train de déterminer ça. Mais Jésus dit, ben, allez-y les gars. On va s'en voir de l'autre côté. Pendant que lui-même renverrait la foule. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était super. J'espère que vous avez bien mangé. Écoute, on a fait une multiplication des pains. Et tous les malades sont guéris. Vous pouvez retourner chez vous. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Je sais pas comment est-ce qu'il finissait ça. Peut-être qu'il invitait quelqu'un qui se chantait vraiment mal, puis tout le monde disait, on sait pas. OK. Ça, c'est pas écrit dans le texte, là. C'est pas là. De ta maison, vous pouvez chanter très mal, puis il n'y a pas personne qui va le savoir. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. On est allé, quand on est allé en Israël, on est allé où ce qu'on pense que Jésus a prêché le sermon sur la montagne, c'est à flanc du lac. C'est vraiment une belle colline, puis tu vois vraiment le lac. Et c'est possible que ça se soit passé là. Alors, Jésus monte sur la colline pour prier. OK, les gars, allez-vous en bateau, là? On va se retrouver tantôt, là. Et quand le soir fut venu... Tu sais, le soir, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité à cette époque-là, hein? Quand le noir arrive, comme on dit, il fait noir comme chez le loup, là, hein? Il n'y a pas de... Attends une minute, là. Hey, t'as-tu amené ta lampe de poche? Non. Ah, c'est la lampe frontale. Non, il n'y en a pas. Attends, c'est le dynamo. Non, non, il n'y en a pas. Il fait noir. Tu n'amènes pas une chandelle sur un bateau. Bateau de bois, tu sais, c'est pas c'est le genre d'affaire que tu fais pas. Alors, le soir est venu. Et Jésus se tenait là, seul. Ah! Et c'est là où il a dû avoir une impression de déjà-vu qui arrive. La barque était déjà à une bonne distance de la terre et elle était battue par les vagues. Je suis convaincu que pendant ce temps-là, il y a eu quelques discussions rapides dans le bateau. Là. OK, ça y est, les gars, on est fini. Jésus n'est pas là, ce coup-là. On est fait. Nous allons mourir, pour vrai, on ne sait pas trop. Mais elle est battue par les vagues parce que là, tout d'un coup, la Bible prend le temps de mentionner que ce n'était pas la question des vagues, ce coup-là, mais que le vent était contre elle. Ça n'allait pas comme il voulait. Est-ce que ça va toujours comme vous voulez, vous? Moi non, là. Je veux dire, ma vie ne va pas toujours comme je veux. J'aimerais ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, tout d'un coup, c'est non seulement qu'il y a les vagues qui arrivent, mais en plus, le vent pousse la barque dans l'autre direction. Et à la fin de la nuit, comprenons, là, au début de la soirée, il s'en va prier, puis on parle de la fin de la nuit. 8, 10, 12 heures plus tard. Pas 3 minutes après. Hey, Jésus, tu sens pas l'eau d'en face? Comment, réveille-toi? Non, 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 non. C'est pas ça, là. Une douzaine d'heures plus tard, Jésus alla vers eux. L'autre petit bout est assez intéressant parce qu'il marche sur le lac, lui. Le vent contraire n'existe pas. Les vagues ne dérangent pas. Les difficultés, pas grave. Je suis capable de faire quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ils m'ont marché sur le lac, les gars. C'est quelque chose. Ce n'était pas arrivé encore. Et là, ça arrive. Voyez-vous, il y a comme quelques petites similitudes entre les deux histoires. La grosse différence, c'est que le premier, Jésus était là, puis les disciples avaient l'impression que Jésus s'en moquait totalement de leur situation. Puis la deuxième, c'est on est allé, on y va, mais ça ne marche pas en tout comme on veut. Et Jésus, sur la colline, c'est la nuit, on ne sait pas trop si c'est un clair de lune, puis il voit un peu ce qui se passe, probablement pas, des nuages, parce que le vent est... J'espère que les gars vont comprendre ce coup-là. Ils n'ont pas compris encore. Ils vont continuer à prier. Mais les disciples sont dans le bateau. Ils essayent, là. Comprenez-moi, ils essayent, là. C'est pas qu'ils n'essaient pas de faire avancer leur barque, mais tout va contre eux. Tout va contre eux. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous vous dites... Wow, j'ai l'impression que, c'est peut-être moi qui étais dans ce bateau-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans ma vie qui vont contre moi. Plein de choses. Mes enfants ne font pas ce que je veux. Ça va moyen avec ma femme, moi avec mon mari. Ma job encore, je ne suis pas trop certain. Il y a plein de choses qui vont contre nous. Et Jésus, il regarde. On va faire quelque chose bientôt. Mais ils ne sont pas prêts. Je ne suis pas sûr qu'ils ont compris la première leçon encore. Alors, Jésus va vers le lac. La Bible nous mentionne que pendant qu'il marche sur le lac, et j'ai coupé un verset, là, Jésus arrive là, les disciples, encore en état de panique, parce qu'ils pensent qu'ils ont vu un fantôme sur le lac. Ils n'ont pas reconnu que celui qui contrôle les éléments, celui qui contrôle la vie, celui qui contrôle les éléments adverses, celui qui contrôle toutes choses, il est capable de marcher sur l'eau, mais il ne l'a jamais fait encore, ça, devant eux. Et qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ah! Fantôme! J'imagine, j'aurais probablement crié comme ça, puis j'aurais poussé Pierre devant moi. C'est moi, Pierre, t'es capable, toi. C'est toujours le premier qui y va, vas-y. Comme de fait, c'est probablement ce qui est arrivé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Jésus leur parla, il dit « Courage! » Pas homme de peu de foi, ce coup-là. Là. Courage! C'est drôle, hein? Le premier coup, les vagues, la tempête est là, il est avec eux. Pis, les gars, pas vrai? Et là, c'est pas du tout le message qu'il lance. OK, les gars. Courage, je sais, la barque avance pas comme vous voulez, hein? Les vagues sont fortes, hein? Le vent est contraire, hein? Ça fonctionne pas comme tu voudrais, n'est-ce pas? Mais courage! C'est même pas « Attends, je vais calmer la tempête ». C'est pas ça. Parce que là, les disciples devraient avoir compris qu'il est capable de calmer toutes les tempêtes. Il est capable de le faire. Mais là, ce que Jésus veut que ses disciples comprennent, c'est une autre chose. Come on! Courage! Allez! N'ayez pas peur, les gars! Allez! Et Pierre prit alors la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est vraiment, vraiment bien toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Ah, mais quand même, je veux dire, « Seigneur, si c'est toi, viens nous rejoindre. » Non, mais pour vrai, on va se sentir un peu mieux si tu viens nous rejoindre. Et Jésus, c'est pas ça qu'il dit pas. Ah, OK, c'est vrai, j'arrive, les gars. Laisse-moi une petite place dans le bateau. Non. C'est pas ce qui se produit à ce moment-là. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est ce qu'il dit, venez vers moi. Vous vous battez fort depuis longtemps, hein? C'est difficile, hein? Mais là, ce que je veux, c'est que veniez vers moi parce que je sais que vous savez que je contrôle toutes choses. Et là, venez juste me voir, les gars. Oh, mais Seigneur, ça nous manque quand même pas mal de fois de sortir d'un endroit où on sait que ça va pas bien. Seigneur, tu veux que je te fasse confiance au milieu de mes tempêtes? Tu veux que je continue à avancer? Même que ça marche pas comme je veux? La maladie que j'essaie de... que je deal avec, faut que je passe à travers ça? Ah, oh, ça, c'est moins drôle, hein? On veut que Jésus calme toutes les tempêtes de nos vies. Mais Jésus ne veut pas calmer toutes les tempêtes de nos vies. Il veut qu'on soit capable de lui faire confiance au milieu des tempêtes de nos vies. C'est très, très, très différent. Beaucoup plus difficile pour l'être humain. Parce que moi, ce que je veux, c'est, j'ai besoin d'argent. Seigneur, le cash va venir de où? Seigneur, je suis malade. C'est quand que tu vas me guérir? Seigneur, j'ai pas de job, c'est qui va m'embaucher? Puis ça, c'est au tout début qu'on comprend ça. On veut juste qu'il réponde à tout ce qu'on lui demande. Seigneur, A2, un chip qui tombe, c'est ça que je veux. Seigneur, j'ai prié 3 fois, qu'est-ce que t'attends? Right? Je parle juste pour moi, peut-être, je sais pas. Mais là, Jésus, c'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Je ne la calmerai pas, la tempête. Elle va rester là un peu. Mais ayez du courage, là. Venez me voir. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre. Viens. Il n'y a pas eu de pep talk, il n'y a pas eu à part le « ayez courage », il n'y a pas ça. Et là, tout d'un coup, Pierre sort de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Au milieu de la tempête, il sort de son bateau, puis il va voir Jésus. Je ne veux pas parler sur le fait qu'il est le seul à avoir sorti, lui a eu la foi, les autres ont... C'est pas ça le principe de l'histoire. Le principe de l'histoire, c'est que Jésus était là, au milieu de la tempête, et il ne l'a pas calmé, parce qu'il voulait que ses disciples lui fassent confiance au milieu-là. C'était pas la destination de l'autre côté du lac qui est importante encore. Parce qu'ils vont se rendre de l'autre côté du lac. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre pendant qu'on est en chemin. Parce que la destination n'arrive pas si tu n'as pas compris le cheminement, le pèlerinage au milieu. OK, je vais la répéter, celle-là. La destination n'arrive pas si on n'a pas compris ce qui doit se passer au milieu, entre le point de départ et l'arrivée. Jésus n'est pas si concerné que ça par la destination. Mais c'est ce qui se passe dans nos vies entre les deux. Je vais tout faire pour vous, mes enfants. Moi, calmer toutes les tempêtes de vos vies. Super. La plupart d'entre nous, si vous êtes chrétien depuis au moins 3 jours, vous savez qu'il y a des moments où Jésus a calmé les tempêtes de vos vies, puis c'est un miracle, je ne sais pas comment ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et après ça, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est la deuxième histoire de l'Évangile qui compte à ce moment-ci. Il ne veut pas les calmer les tempêtes de nos vies. Viens. Tu es en train de passer à travers de quelque chose, mais viens avec moi. Viens avec moi. Et Pierre y va, il marche sur l'eau. Et il marche sur l'eau. On ne sait pas c'est quoi la distance, on ne sait pas combien de temps. On n'a aucune idée. L'Évangile est assez vague sur le sujet. Tout ce qu'on sait, c'est que le moment où il sort du bateau et qu'il fait ça, il ne cale pas. J'ai essayé dans une piscine, enfant, ado, adulte. Je veux dire, ça marche pas. Ben, l'hiver, là, quand c'est glacé, mais ça, c'est pas pareil, ça compte pas. Mais là, quand il remarque la violence du vent. Le même vent qui allait contre la barque, hein. Là, il est allé à Jésus. Je m'en vais vers toi, là. C'est correct, Seigneur, je te fais confiance, là. Mais là, tout d'un coup, il se rappelle. Ouais, mais ça va pas comme je veux. Et là, c'est drôle, parce que la Bible dit pas qu'il s'est enfoncé, hein. Il commença à s'enfoncer. C'est quoi? C'est comme du jello, puis il rentre tranquillement? Non, mais pour vrai, passez-y un petit peu, là. Juste un petit peu. C'est pas... C'est... Parce qu'il commence à s'enfoncer. À partir du moment où il ne regarde plus à Jésus, là, puis regarde aux circonstances de sa vie qui sont adverses à ce moment-là, là, tout d'un coup, il commence à être submergé. Commence à s'enfoncer. Mais avant de se rendre à destination, Jésus, faut qu'on comprenne cette deuxième leçon-là. Elle est vraiment importante. La première, c'est il est le maître de nos vies, il est en contrôle de toutes choses, puis c'est correct. La deuxième, c'est qu'au milieu de nos tempêtes, il faut quand même commencer à lui faire confiance, même si on voit que tout est en train de s'écrouler autour de nous. Pas drôle, hein? Mais si on ne comprend pas cette deuxième leçon-là, on n'arrive pas à destination. Parce qu'on va repasser à travers la barque une troisième fois, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une douzième, ou une millième. Le Seigneur ne m'écoute pas. Non, c'est moi qui ne comprends pas. C'est facile de blâmer Jésus pour ne pas faire nos choses quand c'est nous qui ne voulons pas retenir la leçon qu'on devrait retenir. Il y a des parents ici, là. Hein? Quand vous élevez vos enfants, puis vous leur dites de faire ça comme ça, si tu fais comme ça, ça va bien aller. Puis ils ne faisaient pas comme ça. Il arrive quoi? Alors vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Moi, mes enfants écoutaient toujours du premier coup, fait qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, là. Vous me donnez de l'argent, les filles. Mais non, il faut répéter la leçon jusqu'à ce qu'elle soit comprise. Jésus voulait que les disciples, tout d'un coup, comprennent. Le vent va continuer à souffler. Mais, courage, venez à moi. Et Pierre était capable tant et aussi longtemps qu'il regardait à Jésus. Tant qu'il regardait à lui. Et là, il a eu peur, il commence à s'enfoncer. Et dans l'eau, il s'écria, « Seigneur, c'est pas. » Une des plus petites prières des évangiles. Une des plus petites prières de l'évangile. Alors, pour être capable de traverser de l'autre côté, il y a 4 choses qu'on devrait avoir remarquées ce matin. La première est celle-ci. C'est que notre foi en lui doit être éprouvée. Je vais le répéter, OK? Notre foi en lui doit être éprouvée. D'habitude, les gars, quand ils viennent prêcher dans une église, ils parlent de l'amour de Dieu, puisque toutes les bénédictions que Dieu veut donner. Puis c'est ça que j'avais prévu, David. Pour vrai, c'est ce que je dis. Je vais m'arranger pour prêcher un message que tout le monde va m'aimer. Puis plus je me préparais, je chantais, je sais pas, c'est pas ça, faut que je prêche. J'ai l'impression qu'il faut que je prêche ça. Prêche que tu penses que le Seigneur t'a dit de prêcher à l'église. J'ai dit, OK. Pour arriver à destination, Il faut comprendre que notre foi en lui, notre confiance en lui, au milieu de nos moments difficiles, au milieu de notre anxiété, au milieu de notre maladie, au milieu de tout ce qu'on vit qui ne fait pas notre affaire, notre foi doit être éprouvée. Pour mon humble opinion, voici ce que l'Écriture nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. Voilà ce qui fait notre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Passager, ça ne durera pas, là. Et ça ne durera pas. Peu de temps par les diverses épreuves. Le vent contre la barque, les vagues, submerger tout ça. Peu de temps. Celles-ci servent à... éprouver la valeur de votre foi. Parce que lorsqu'on est capable de faire confiance à Dieu, lorsqu'on est capable de placer notre foi en lui au milieu de nos circonstances adverses et complexes, notre foi devient éprouvée et voici ce qui arrive après. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, le Seigneur qui ordonne de passer au travers, right? Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Mais il faut commencer par passer par des situations adverses pour obtenir ce que Dieu veut nous donner, l'abondance. Il faut être prêt à écouter les mots de Jésus qui dit « Courage, c'est pas facile, je le sais, courage, viens à moi, cours pas comme une poule sans tête à chercher des solutions sur Google, à appeler tout le monde, à te plaindre à tout le monde. Peux-tu juste venir à moi? » S'il te plaît, parce que quand tu fais ça, la deuxième chose sur le chemin pour te rendre à destination, c'est que ta foi éprouvée va te permettre de vivre l'abondance de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est beau ça, hein? C'est le fun parce qu'on veut l'abondance de ce que Dieu a pour nous. Mais il faut qu'on soit éprouvé avant, un peu. Troisième chose. Les disciples ont compris, on ne sait pas trop comment, et finalement, ils arrivent de l'autre côté du lac. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, eux l'ont reconnu, les habitants ont reconnu Jésus. Ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Pas des malades, tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ce qui arrive, c'est qu'après avoir passé à travers les circonstances adverses, après avoir leur foi éprouvée et testée, après avoir fait ça, après avoir éprouvé pour obtenir de l'abondance de l'appel que Dieu avait pourvu pour eux, puisqu'en les versets précédents, Jésus, tout ce qu'il veut de ses disciples, c'est « Je vous veux avec moi d'abord. Viens à moi. » C'est ce qu'il voulait. La deuxième chose qu'il leur donne, c'est le pouvoir de faire l'œuvre de Dieu. Puis après ça, c'est aller guérir les malades, aller imposer les mains aux malades, ils vont être guéris. C'est à ce moment-là, après avoir été testé, après avoir été prouvé, après avoir retiré l'abondance de ce que Dieu voulait dans nos cœurs, que là, tout d'un coup, on a ce qui s'appelle la puissance de l'Esprit dans nos vies. Une fois qu'il a été prouvé juste par des moments faciles, ça vaut ce que ça vaut, hein? Mais quand tu as confiance dans tous les moments d'adversité, tu vas croire que Dieu va faire ce qu'il a besoin de faire quand il a besoin de le faire. Et c'est à ce moment-là que la réputation de Jésus dépasse les limites des frontières où il est. Parce que tout le voisinage l'entend parler. Et à ce moment-là, on peut lire, on ne lira pas, mais après tous les textes de l'Évangile de Matthieu, à ce moment-là, il y a plein de miracles qui se produisent, pas par Jésus, mais par la main des disciples. Et c'est là où la quatrième chose se produit, parce qu'ils sont traversés de l'autre côté. Il y a l'accomplissement de ce que Jésus voulait pour eux. Tu as passé au travers, super, tu es venu à moi dans tes moments de difficulté, génial, voici ce que je te donne, la puissance de l'Esprit pour toi. Maintenant, va faire ce que je t'ai appelé à faire. Va vers les gens qui ne connaissent pas Jésus. Va vers ceux de ton entourage qui ont besoin d'aide. Va aimer ceux que personne ne veut aimer. Va faire ça, va guérir les malades. Va et sois présent pour eux parce que je suis avec toi. Ce que tu as le goût de faire, que le Seigneur a placé dans ton cœur depuis des semaines, des mois et des années, c'est à ce moment-là, après avoir été prouvé, après avoir été éprouvé, que Dieu va te permettre d'accomplir ce que tu voulais faire depuis si longtemps qu'il avait placé dans ta vie. Mais il faut passer par la première barque, on panique, puis il vient nous aider, la deuxième, c'est nous autres à aller vers lui. Alors, voici ce que j'aimerais faire en terminant. On n'est pas à la mode où on va inviter les gens à s'avancer encore, mais j'aimerais ça que les musiciens reviennent et qu'on rechante le dernier chant qu'on a chanté ce matin. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, dans votre foi à ce moment-ci. Je n'ai aucune idée. Mais je veux prier avec vous à cet instant présent, OK? Et voici comment on va faire ça. On va prier dans quelques secondes, on va chanter. J'aimerais qu'on chante ce chant-là comme une déclaration de foi envers Dieu. Je n'ai au moins une avec moi, c'est bon. Les gars comme moi, ils aiment ça, ils allaient en gang, tu sais, je veux juste dire ça. OK? Pendant qu'on va chanter, on va chanter ça comme une déclaration à Dieu. C'est correct, je sais, l'enfer tremble, tu es avec moi, Seigneur, je sais. Je suis au milieu de ma tempête présentement, je le sais. Ça va pas comme je veux, je sais. Mais voici ce que je vais faire. Je vais déclarer de ma bouche, au milieu de ma tempête, je prends courage en toi. C'est à peu près ça qu'on va faire. OK? Et pendant qu'on va chanter, je veux juste que vous vous leviez à votre place. Si pour vous, ce matin, vous dites, je t'embarque un peu, puis je panique un petit peu une fois de temps en temps. Les circonstances sont adverses. Si c'est vous, attendez pas que quelqu'un se lève à côté de vous. Ça se passe entre vous et Jésus ce matin. C'est Jésus qui vous dit, « Viens, allez. On ne viendra pas en avant, on va le faire à nos places. » OK? Puis après ça, on va pouvoir prier les uns pour les autres. De nos places. Parce que la prière du juste a une grande efficacité que la Bible nous mentionne. Puis il y a quelque chose à être capable de se tenir avec quelqu'un d'autre dans nos moments difficiles. Dans nos adversités. Quand on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à nos côtés, c'est comme, mais semble c'est un peu plus facile. Pas dit facile, juste un peu plus facile. Est-ce que vous voulez faire ça ce matin? Alors, voici ce qu'on va faire. Je chante ça que je t'ai entendu vendredi soir, je sais que tu es capable de chanter, je n'ai pas de doute. J'aimerais que l'Église le chante pareil. Matchez-le. Ça fait ça, ben faites ça vous autres aussi. Ça sort, ben sautez un petit peu aussi. Puis croyez que c'est passager, cette tempête-là. Elle est passagère, cette tempête-là. Elle va passer, elle ne durera pas. Dieu a d'autres choses de prévues. T'es pas arrivé à destination encore. Amen, là, ça sera le fun. Êtes-vous prêts? Alors, fermez vos yeux. Si vous connaissez pas les paroles, ben gardez vos yeux ouverts, OK? C'est correct. Je veux qu'on chante ce chant-là. Est-ce que je dois débrancher mon iPad pour ça? Pour voir les paroles? Non? OK, super. Je veux vous entendre chanter ça comme si l'apôtre Pierre qui est en train de dire « Seigneur, sauve-moi. » OK? C'est pas pour moi. Vous faites ça parce que c'est entre vous et Dieu à ce moment-ci, ce matin. Ça a le droit de changer à partir de ce matin. Ça a le droit de changer à partir de ce matin. Dans notre prière ce matin, Seigneur.
Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom.
Yes.
Calme dans l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom.
Chantez ça comme une déclaration.
Jésus, Jésus, tu fais trembler les
Allez, peuple de Dieu.
Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Moi un chant pour mon corps, je t'adore, Jésus, Jésus.
C'est votre déclaration ce matin.
Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus, nos peurs se taisent, Jésus, Jésus.
Matin, que les vents ne se calment pas nécessairement, mais qu'au milieu de nos tempêtes, on puisse crier à toi parce que tu es capable de faire ton œuvre au milieu de nos tempêtes. Et on veut te faire confiance là où nous sommes, près de toi, parce que tu nous amènes à toi. Seigneur, entends encore cette prière que nous te déclarons ce matin. Entends notre prière, notre déclaration de foi en toi. Parce qu'on est convaincu que tu vas nous amener à destination. Tu vas nous amener à destination. Tu vas nous amener à destination. Que ta grâce soit avec nous ce matin. Calme nos peurs ce matin, Seigneur. Calme nos inquiétudes ce matin, Seigneur. Qu'on prenne courage en ta présence, parce que là où ce que tu es, on va, ça va bien aller parce que tu es là. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Priez pour la personne qui est à côté de vous dans votre famille. Sortez pas de la cellule familiale. Posez votre main sur votre conjoint qui est à côté de vous ou votre ami qui est à côté de vous. Si vous sentez à l'aise de imposer les mains. Et pendant que notre super équipe de louanges, merci pour ce que vous faites, vont chanter, prier pour la personne à côté de vous. Il est très possible que vous connaissez déjà la situation dans laquelle ils sont. Alors, priez pour eux des choses toutes simples comme « Seigneur, au milieu de cette tempête, qu'ils aient le courage. Viens calmer la tempête, Seigneur, qu'on puisse avancer dans... Seigneur, amène-nous à destination, qu'importe. Vos mots vont être suffisants parce que Dieu connaît très bien l'intensité et l'intention de vos cœurs à ce moment-ci. Alors, priez pour la personne à côté de vous pendant qu'on chante. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies présentement, Seigneur. Merci pour ce... On n'est peut-être pas à destination encore d'accomplir tout le but de nos vies encore, peut-être. Mais pendant qu'on est en chemin pour cette destination-là, Seigneur, que nos actions nous amènent dans la bonne direction. Qu'on se dirige vers toi, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies ce matin. C'est dans ton nom, Seigneur, qu'on prie. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Stéphane, pour cette parole, ces applications, l'inspiration. Vraiment, confions-nous dans le Seigneur. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous accompagner dans votre foi, dans vos épreuves, vos difficultés, on est là. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous accompagne. On se revoit très bientôt pour une autre assemblée à l'église de Fusion, en ligne également. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, belle appréciation pour Pasteur Stéphane, son épouse Chantal. Merci pour votre présence. On est tellement contents. Soyez bénis à tout le monde. Bon dimanche.